Gloire à Dieu, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps. Viens prendre la première place au milieu de nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, et parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que toute pensée soit ramenée et obéissante aujourd'hui, Seigneur, à Christ, en ce lieu. Viens régner totalement au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le livre de Job au chapitre 1er. Job, 1er chapitre. Alors nous n'allons pas lire les premiers versets, nous allons commencer à partir du verset 13. Ensuite, nous resituerons le contexte de ce qui se passe ici. Job, chapitre 1er, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit : Les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et il les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en rapporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors, pour situer un petit peu le contexte que nous n'avons pas lu, on nous dit dans les premiers versets que Job était un homme intègre et droit. Et un homme intègre et droit, c'est quoi ? On nous dit qu'il respectait Dieu, il craignait Dieu. Il vivait selon les commandements de Dieu, mais il était un adorateur aussi. Et il adorait même Dieu en espérant la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Et on nous dit à partir de verset 6 que Satan parcourt la terre et se présente dans la présence de Dieu. Et il vient, Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Alors Dieu lui dit, as-tu remarqué, mon serviteur Job ? Cette question de Dieu, bien-aimé, fait une distinction. Nous sommes tous humains, nous sommes tous égaux devant Dieu dans la considération du salut. Mais dans la proximité, nous ne sommes pas, pareil. Pourquoi ? Je m'explique. Puisque, vous savez, Dieu aime celui qui aime la justice. Dieu aime celui qui est droit. Dieu aime celui qu'il aime. Dieu ne force pas la relation d'amour. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué, Dieu aurait pu dire, as-tu remarqué quelqu'un d'autre ? Mais il parle de Job, puisque pour lui c'est une fierté. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Alors Satan, qui connaît Job bien évidemment, il dit, mais est-ce que tu penses que Job t'aime réellement ? Est-ce de manière désintéressée ? Prends-lui tout ce qu'il a et tu verras qu'il te maudit. en face. Et là, nous arrivons au verset 13 où Dieu, finalement, laisse Satan aller en disant « Vas-y, mais ne touche pas à sa vie. » Et au verset 13, s'enchaînent les mauvaises nouvelles. Donc, comme on vient de lire, lorsque quelqu'un vient parler à Job, le deuxième serviteur arrive pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, Bien-aimé, vous savez, dans la vie, les situations ne sont pas toujours identiques. Vous savez, en une minute, la vie peut changer. En quelques instants, le cours de l'histoire de nos vies peut changer. Voilà pourquoi il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il est écrit que lorsque vous dites demain, dites plutôt si Dieu, sinon nous sommes des insensés. Puisque la minute d'après, vous voyez, Job, en un instant, vous savez, je le dis déjà là, ça sera l'objet de notre étude de mardi. On va voir en profondeur l'histoire de Job, quelques enseignements à tirer. Mais je nous en parle déjà là pour introduire la pensée. Bien-aimé, vous savez, il y a des enjeux. Vous savez, Job, là où il est sur la terre, lui, il aime Dieu, mais il ne sait pas ce qui se passe. Les combats qu'il y a, des enjeux spirituels qui se jouent à ce moment-là, lui, il n'est pas au courant. Mais il voit des choses se succéder. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, nous l'avons intitulé sous forme de questionnement, puisque c'est une méditation. Par quoi passons-nous ou par quoi passes-tu ce matin? Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle réalité tu vis. Je ne sais pas ce que tu as rencontré hier. Je ne sais pas ce que tu as vécu toute cette semaine. Moi, je ne le sais pas. Mais l'exhortation de ce matin, c'est pour nous amener à comprendre que quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu a un plan derrière cela. Dieu a un projet derrière cela. Bien-aimé, regardez l'histoire de Job, regardez ce que Job vit. C'est très difficile. Et on nous dit que dans tout cela, Job ne pécha point. Pourquoi il ne pécha point? Parce qu'il n'attribua pas le mal qu'il vivait à Dieu. C'est ça, c'est pour ça qu'il n'a pas péché. Puisque lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous voyons qu'il se lamente, il se plaint aussi. On dit, mais c'est pas normal. Mais dans tout ça, Job n'incrimine pas Dieu. Job n'accuse pas Dieu. Il y a des raisons, c'est ce que nous allons voir mardi à l'étude biblique, pour lesquelles Dieu permet la souffrance du juste. Mais vous savez, dans une Bible que j'ai, de commentaires bibliques, c'est écrit. Alors il y a toutes les raisons, hein, les épreuves, Dieu veut nous parfaire, Dieu veut nous amener à la stature de Christ, Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous briser. Ça, tout ça, les chrétiens, nous connaissons ça. Mais vous savez, il y a une raison qui est écrite dans cette Bible. Moi, c'est un commentaire, bien évidemment, qui m'a touché, mais qui m'a fait mal en même temps. Où c'est écrit, parfois Dieu permet les souffrances de juste, tout simplement pour sa gloire. Bien-aimé, il n'y a pas d'explication. Nous les humains, nous voulons que les choses soient rationnelles. Tu as fait ci, tu mérites ça. Tu as fait ci. Mais Dieu permet, vous savez, Jésus a souffert. Jésus est mort à la croix pour nous. Mais qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Mais il est écrit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est écrit qu'il a plu à Dieu. Donc la souffrance de Jésus était une joie pour Dieu de voir que un se donne pour les autres. Donc nous revenons sur l'histoire, bien-aimés. Alors, par quoi passes-tu ce matin ? Quelle situation tu vis, peut-être qui n'est pas expliquée, qui n'est pas explicable. Vous savez, en français, on dit, en cherchant à excuser, non, en cherchant à expliquer l'inexplicable, on arrive à excuser l'inexcusable. C'est ça le travail des psychologues. Hein. Vous savez, ils vont toujours trouver une source à un problème pour dire finalement, si telle a fait ça, c'est parce que. Mais en réalité, le vrai problème, c'est le problème du péché. C'est ça le vrai problème qui fait que l'homme souffre, l'homme soit mauvais. Et là, Job, qui est un homme droit, il souffre. Et là, nous sommes qu'au chapitre 1er. Hein. On n'a pas lu le chapitre 2 où non seulement il a tout perdu, mais il commence à souffrir dans sa chair. Il se gratte avec des tessons de bouteille. Bien-aimé, je ne sais pas par quelle situation tu passes aujourd'hui, mais je peux d'ores et déjà te dire que ta souffrance n'est pas comparable à celle de Job. Peut-être que ça va t'aider à relativiser. Vous savez, comme on dit quelquefois, quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, ça me rassure. Vous connaissez ça, non? Quand on était à l'école, vous savez, quand le prof rend la copie, tu as 6 sur 20, ah, tu penses à la maison. Mais quand tu te rends compte que l'enseignant dit, bon, le meilleur de la classe a eu 7 sur 20, bizarrement, ta souffrance devient une joie. Puisque tu te rends compte que tu as la deuxième meilleure note. Mais pourtant, tu as échoué. Et là, nous voulons dire qu'aucun humain, à part Jésus, qui a porté les souffrances de toute l'humanité, qui a vécu ce que Job a vécu, bien-aimé? Par quoi tu passes? Nous lisons Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. On peut commencer à partir du verset 43. Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. On peut continuer. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre et à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors, dans ce texte, nous avons lu l'histoire de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et on nous dit que cette femme a rencontré divers médecins. Et non seulement cela, elle s'est ruinée. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. J'imagine peut-être qu'elle s'est même endettée pour pouvoir bénéficier des soins mais on nous dit que tout ça n'a rien produit. Vous savez, le bien-aimé a parlé tout à l'heure du message que nous avons reçu, SOS, et j'aime beaucoup les commentaires qu'il nous est donné, où on nous dit, bien-aimé, viendra un jour dans ta vie, chrétien ou pas chrétien, ou païen, où personne ne pourra rien pour toi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein. Bah, en tout cas, pour ceux qui l'ont, vous pourrez lire ça. Viendra un jour où personne ne pourra rien faire pour toi. Où le plus grand médecin, professeur et tout ce qu'on veut, on a vu, bien-aimé, avec un simple virus, le Covid. On a vu que les grands spécialistes qui se contredisent, personne n'a la vérité infuse. On l'a vu, bien-aimé. Combien il existe de maladies aujourd'hui que l'homme ne peut guérir. Combien? C'est ça la réalité, bien-aimé. Il arrivera un temps. Peut-être que c'est ça que tu vis aujourd'hui, c'est ça la question. Par quoi tu passes? Moi, je ne sais pas, mais toi, au fond de toi, tu sais que tu vis une situation ou des situations que l'homme ne peut rien faire, dans laquelle l'homme ne peut rien faire pour toi. Et c'était le cas pour cette femme. Alors elle s'est dit, je vais essayer à gauche. Vous savez, on te recommande, hein. On te dit, tiens, ou alors ton médecin traitant va dire, tiens, confrère, est-ce que tu peux traiter la situation de telle? Et tu vas comme ça d'endroit en endroit, sans trouver de solution. Et ce que nous voulons dire par ce matin, c'est que ce par quoi tu passes, la solution se trouve en Jésus. Peu importe. Peut-être que dans ta famille, tu vis le rejet. Peut-être que tu as vécu une trahison. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Ou on t'a dit que tu es malade. Ou on t'a dit que tu es condamné. Ou on t'a dit que tes jours sont comptés. Ou on t'a dit qu'on ne peut rien, on peut plus rien pour toi. Peut-être même que les humains t'ont dit que c'est fini pour toi. Tu es perdu. Vous savez, j'ai beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, je vais raconter beaucoup d'histoires. Il y a un homme. Certains ont vu le témoignage. Nicky Cruz, qui vient de Porto Rico, c'est un pays de l'Amérique latine, et qui a grandi dans les, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les quartiers, mais les quartiers chauds de New York. Et cet homme explique que dès l'âge de 7 ans, donc ses deux parents étaient satanistes, mais des prêtres de Satan, qui faisaient des cultes à Satan, et son père faisait même des sacrifices à Satan. Il était guérisseur et il faisait des miracles au nom de Satan et les gens étaient guéris, apparemment. Alors un jour, il dit qu'ils avaient une grande fratrie de 17 personnes, donc 17 frères et sœurs. Et il dit qu'il était le mal-aimé de la famille, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, la maman ne l'aimait pas, lui. Et souvent, il était victime de brimades, d'insultes. Et un jour, il avait 7 ans, sa mère le frappe. Elle le met en face de lui comme ça en disant « Regarde-moi !» Et il dit qu'il n'ose même pas regarder sa mère dans les yeux. Sa mère lui dit « À partir d'aujourd'hui, tu sors de ma vie. » Vous vous rendez compte, un enfant qui a 7 ans, la maman lui dit « Tu sors de ma vie à partir d'aujourd'hui. » Et il décide. Donc, ce qui se passe, un de ses frères, il avait 17 frères et sœurs, un de ses frères entend ce qui se passe. Alors il décide d'aller se pendre. Donc il monte sur un arbre puisqu'il dit, bon, à quoi je sers si mes propres parents ne veulent pas de moi? Et lorsqu'il va pour se pendre, un de ses frères crie, il dit, non, Niki, ne fais pas ça. Il arrive à monter sur l'arbre, à le descendre. Et je vous la fais court. Hein. Et il se retrouve finalement chez l'un de ses frères à New York. Et là, il refuse d'aller vivre avec son frère puisque il a gardé dans son cœur ce que sa mère lui a dit. Il a dit, puisque ma mère ne veut pas de moi, mes parents ne veulent pas de moi, alors je veux leur offrir le plus beau cadeau, lequel c'est de quitter leur vie. Je ne veux plus être associé à cette famille. Et donc lorsqu'il arrive à New York, il est censé habiter chez son frère. On le ramène, c'est un enfant, on le ramène chez son frère, il s'évade. Et il vit comme ça dans la rue. Et progressivement, il devient chef de gang. Et les gangs dans lesquels ils étaient, bien aimé, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Ils tuaient des gens, ils coupaient des têtes. À New York. C'était des durs. Et il dit, le jour où il a quitté la maison, quand sa mère lui a dit, sors de ma vie, il a dit à partir d'aujourd'hui, il a pris deux engagements. Le premier, je ne veux plus jamais pleurer. Quoi qu'il arrive. Et le deuxième, je ne veux plus jamais aimer. Et j'ai pris ces deux engagements-là. Et progressivement, donc je passe différentes étapes de sa vie. Je raconte ça, bien aimé, pour nous dire, la question c'est par quoi tu passes? Qu'est-ce que tu traverses? L'objectif, je réponds déjà à la question, c'est que tu rencontres Dieu par ceux que tu traverses. C'est peut-être le rejet. Et progressivement, cet homme continue dans la délinquance, dans le fait de tuer des gens. Un jour, il dit même qu'il se fait arrêter par la police. Alors, il est mis en garde à vue, interrogatoire. Mais vous savez, il dit, dans nos gangs, on a une loi, une règle, c'est que quoi qu'il arrive, on ne dénonce pas les frères. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Le groupe, c'était les mamas. Leur groupe à eux, c'était les mamas. Il dit, quoi qu'il arrive, on reste fidèles. Alors, il a été torturé par la police. Toutes sortes de tortures. Pour qu'il parle, il n'a pas parlé. Alors, le chef de la police dit à ses gardes, à ses policiers, mais libérez-le, puisque vous savez que ces gens-là ne parlent, ils vont pas parler. Donc, on risque de le tuer ici et ça va nous créer de problèmes. Donc, laissez-le. Alors, lui, il entend ça, il se dit, ouf, vous vous rendez compte, vous savez, quand tu es torturé pendant 48 heures, ben, il est content, finalement, il va être libéré. Et vous savez où est-ce qu'il a été libéré? La police le prend, l'amène, il le libère en plein milieu du terrain des ennemis. Les ennemis, vous savez comment ils s'appellent, c'est rigolo, hein, les bishops, le groupe. L'autre groupe, c'était les bishops. La police arrive, bien aimé, c'est comme si on te mettait dans une fosse aux lions. On te dépose là, débrouille-toi. Donc il a été déposé, la police arrive, il le laisse dans le quartier des ennemis. Et ils partent. Il dit, une fois la police partie, il dit, je suis devenu une bête sauvage. Puisque quand c'est comme ça, vous savez, ces gens-là, ils connaissent, hein, quand ils voient la police, ils sont en embuscade. Une fois que la police part, ils sortent. Mais quand ils voient que c'est leur ennemi, numéro un, ils ont commencé à tirer. À tirer, à tout faire. Il dit qu'il partait, il courait, il sautait sur les toits des maisons. Et il s'est dit, bon, pour garder vie sauve, il faut qu'il prenne les rails de train, qu'il court sur les rails de train. Mais avec le risque de se faire écraser par un train. Mais il dit que c'était la seule solution pour lui. Et c'est comme ça qu'il arrive à courir pendant une demi-heure, sortir de ce quartier-là. Et bien aimé, vous savez, tous ces événements-là, Dieu se sert pour se révéler à lui. Et un jour, ils sortent d'une soirée avec ses amis et il avait un de ses amis le plus proche.